Bonjour, ici Raymond Beaugrand-Champagne, et nous allons encore une fois, avec plaisir, vous raconter la vie de quelques saints, et en particulier aujourd'hui, c'est un grand saint, Saint Boniface. Curieux, un saint bénédictin que l'on croit être d'origine irlandaise, mais en tous les cas, il est né en pays anglo-saxon, en Angleterre. Il a été missionnaire en Allemagne, c'est-à-dire en Germanie pour l'époque. Et il a su convertir les gens de cette région au 8e siècle grâce à l'établissement de monastères. C'était sa méthode, par la prière, quoi. Par des centres chrétiens vivants, dynamiques, qui rayonnaient autour. Je vous signale, avant d'entreprendre cette émission, que le pape a béatifié hier un grand saint, à mon avis, le père Damien, le fameux père Damien. Vous avez peut-être déjà vu au cinéma ou à la télévision même la vie du père Damien, cet apôtre belge qui a soigné les lépreux dans une île hawaïenne au siècle dernier, et qui en est mort. Il a attrapé la lèpre, et il est mort en 1889. Et je crois que cet homme a servi de source d'inspiration à tous ceux qui travaillent même aujourd'hui, comme dit le pape, auprès des sidéens. Et c'est ce que le pape a déclaré. Je pense aux hommes et femmes qui s'occupent des malades et particulièrement des victimes du sida. Dans le journal La Presse, l'agence Reuters signale que le sida n'avait jamais été mentionné parmi les raisons de béatifier le père Damien. Mais des membres de l'Église ont exprimé l'espoir que cela puisse offrir une consolation aux personnes qui en sont victimes. Et le pape dit du père Damien, il était un témoin de premier ordre, du zèle missionnaire, qui alliait une foi profonde et une expérience spirituelle avec une charité active, qui respectait totalement les êtres humains dans leur souffrance et leur extrême pauvreté. Et je crois que il a posé aussi un autre geste en arrivant en Belgique. À la surprise générale, il s'est fait accompagner de la reine Fabiola, veuve du roi Baudouin et du secrétaire d'État, Monseigneur Angelo Sadano, et ils sont allés ensemble se recueillir auprès du tombeau du roi Baudouin. Et il a déclaré, « Je salue Baudouin comme un chrétien qui a servi ses compatriotes par une dévotion vraiment évangélique. » Et il dit, « Dans un monde trop souvent ravagé par la violence, nous accueillons, c'est le roi actuel de Belgique, qui dit, « Dans un monde trop souvent ravagé par la violence, nous accueillons un chef d'État, le pape, qui est un infatigable artisan de la paix et de la vie. » Cette famille royale belge, sont de grands défenseurs de la vie. Et vous savez que le roi Baudouin a même démissionné durant quelque chose comme 24 ou 48 heures quand son parlement a passé une loi autorisant l'avortement, pour ainsi dire, sur demande. Le roi n'étant pas d'accord, pour des raisons personnelles qu'il a expliquées d'ailleurs, qui sont des raisons scientifiques, mais aussi des raisons religieuses, un mélange des deux, il a eu ce courage extraordinaire, unique dans ce siècle, de se retirer du trône pendant 48 heures, afin de ne pas avoir à signer un document qui était contraire à sa foi. C'est une légère forme de martyr, ce n'est pas comme autrefois. Quelqu'un qui aurait posé un tel geste aurait risqué la prison ou je ne sais quoi, ou de perdre son trône et d'être remplacé. Mais tout de même, le roi Baudouin a été honorable, et je crois que voilà deux Belges, le père Damien, d'abord, un homme admirable, extraordinaire, il faut lire sa vie, j'en parlerai un jour du père Damien, et je parlerai aussi un jour du roi Baudouin, pour lequel j'ai une énorme admiration. Aujourd'hui, donc, nous allons parler surtout de Saint Boniface, qui a été évêque et martyr, et qui a été un des saints les plus remarquables de l'Église. Son nom de baptême n'était pas Boniface, c'est le pape qui lui a donné ce nom. Il s'appelait Winfrid, W-I-N-F-R-I-D, W-I-N-F-R-I-D. Et il est né aux alentours, on n'est pas trop sûr de sa date de naissance, mais ça nous donne une idée quand même, 680. Ça fait donc 1300 ans, hein. Mais on en parle encore. Vous savez qu'à Montréal, sur l'avenue des Pins, il y a une église Saint-Boniface qui est très peu connue. C'est l'église des Allemands à Montréal. Ils ont évidemment la prédication en allemand, la messe en allemand, et ces Allemands qui sont de fervents catholiques sont très fiers d'avoir cette église dédiée à ce grand Saint-Boniface qui a été l'évangélisateur de leur pays il y a environ 1300 ans, mais je dirais 1250 ans. Et alors, il est né dans le royaume anglo-saxon de Wessex. Il était d'origine irlandaise. Et dans cette contrée-là où il est né, ils étaient chrétiens depuis peu de temps. Mais il est né dans une famille qui brillait par sa foi. Et aussi par sa puissance, il était d'un rang assez remarquable. Et tout de suite, ce petit enfant a laissé présager de ses goûts puis de l'orientation de sa vie. Car à l'âge de 5 ans, il suppliait déjà son père de lui laisser embrasser la vie monastique. Encore une fois, n'est-ce pas, dans ces vies de saints, on remarque que des jeunes enfants de 5 ans désirent entrer dans des monastères. On reste stupéfait devant ça. Pourtant, ce goût existait. Je peux vous dire franchement, moi, j'ai été élevé, de façon assez chrétienne, même si mon père était plutôt détaché de l'Église. Ma mère était chrétienne et éclairée. Nous n'étions pas bigots, c'est pas ça. Mais déjà, moi, à l'âge de 5-6 ans, même à 5 ans, je disais que je voulais devenir carmélite. On me disait que je pouvais pas parce que j'étais un petit garçon. Mais on avait des goûts comme ça, bien naïfs. Ça voulait peut-être pas dire grand-chose. Et peut-être faut-il pas trop s'émerveiller de ce que Saint Boniface ait voulu à 5 ans rentrer dans un monastère. C'est la fascination. Sans doute avait-il été amené dans un monastère, y avait-il vu ce qui s'y passait, il avait été ébloui par tous ces hommes vêtus de noir, mais joyeux quand même, et chantant d'un seul cœur, une seule âme, la gloire de Dieu, et puis sans doute qu'aux abords du monastère, quelques-uns d'entre eux se sont montrés charmants. Mais ça me rappelle, j'avais présenté à une petite fille de 5 ans des religieuses dans une sacristie. Elle n'en avait jamais vu et comme elles étaient très charmantes, ces sœurs, avec leurs voiles et leurs costumes, eh bien, en sortant, elle m'a dit, elle m'appelait grand-papa, elle m'a dit, grand-papa, moi, est-ce que je pourrais aussi faire une sœur? Tout de suite, à 5 ans. Alors, c'est des goûts assez naturels, je crois, chez les enfants d'autrefois. Peut-être que ça existe moins aujourd'hui. Et alors donc, Il a défendu sa cause et puis son père, après prier des hésitations, a permis au jeune Winfrid, ou au jeune Boniface, si on veut, d'entrer à 7 ans. À 7 ans, oui, à l'abbaye de Exeter, qui était une abbaye très importante. Alors, il a donc commencé ses études. Vous savez qu'en France, il existe, comme aux États-Unis, un peu partout d'ailleurs dans le monde, certains monastères, des monastères bénédictins en particulier, qui ont des collèges ou des écoles. Ça veut pas dire que les enfants entrent au monastère, mais ils étudient auprès d'un monastère, ils assistent aux offices, et souvent ils font partie de chorales remarquables, de très belles chorales d'esprit monastique. Et ces enfants-là sont éblouis finalement par la vie monastique et plusieurs entrent et font d'excellents moines, hein, deviennent abbés ou de grands savants. Alors donc, il a commencé ses études, ce cher petit Boniface, là, et quelques années plus tard, il est allé les poursuivre dans une autre abbaye, à Nursling, dans le diocèse de Winchester. Et dans ces deux abbayes, on peut dire que l'âme de cet adolescent s'est épanouie. Elle s'est vraiment épanouie. Elle n'a pas été contrainte, elle n'a pas été diminuée, au contraire. Les années qu'il y passa, puis le souvenir qu'il avait de ses anciens maîtres, les moines, sont restés pour lui comme une espèce de parfum, disait-il, qui a embaumé toute sa vie. Alors, il a eu comme maître des hommes remarquables comme Aldhelm, qu'on retrouve souvent dans les écrits de cette époque. Il a appris de lui les disciplines littéraires du temps. C'était un homme très cultivé que ce moine. Il s'est exercé surtout à la poésie et puis aux compositions bizarres et compliquées là, qui étaient en honneur chez les Anglais à l'époque. Hein. Et il a fait de très rapides progrès et qu'ils l'ont fait bientôt passer des bancs de l'école à la chaire du professeur. Il est devenu professeur très jeune. Hein. J'avais une cousine aux États-Unis, protestante, une cousine germaine, qui à 19 ans était très brillante, était devenue professeure d'économie politique à l'université d'Ann Arbor au Michigan. Tout le monde en parlait. Mais c'était ma cousine germaine, mais elle ne parlait pas français du tout, puis elle était protestante. Margot Goodrich, ma cousine germaine, la fille de la sœur de ma mère. C'est une Américaine que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai une grande admiration. Alors donc, pour revenir à notre Boniface, il a composé une grammaire latine à cette époque, c'était assez étonnant. Hein? Elle nous est restée, sa grammaire latine. Mais la science profane, c'était pas ça vraiment qui l'intéressait, comme jeune moine. Alors parmi les sciences sacrées, ben, il y avait surtout la Bible. Hein? La Bible qui l'attirait. Je vous ai déjà dit d'ailleurs que chez les catholiques, la Bible était mise en valeur beaucoup plus qu'on pense. Hein? J'ai ici entre mes mains le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, traduit en français, publié à Québec chez Jean-Baptiste Fréchette. Savez-vous en quelle année? En 1846. Publié avec l'approbation de Monseigneur l'archevêque de Québec, dit-on. Je répète, 1846. Il y a une préface très intéressante où on met en garde qu'on ne doit pas interpréter la Bible n'importe comment. C'est un Nouveau Testament énorme, publié donc à Québec, il y a 150 ans, et qui était préconisé. L'archevêque demandait que dans les foyers, on ait ce Nouveau Testament, dans lequel il y a des commentaires et des explications pour faciliter la lecture. Donc, notre Saint Boniface, tout jeune, s'intéresse à la Bible, qui l'attirait beaucoup. Ce n'était pour lui l'objet, on dirait, d'une espèce d'érudition vaine. Là. Pas du tout, pas du tout. Il voulait en faire bénéficier les jeunes moines, plus jeunes que lui encore. Puis il se plaisait à prêcher puis à enseigner tout le monde autour de lui, les grands et les petits. Sans compter qu'il allait, avec la permission du père abbé, évangéliser, si on peut dire, ou prêcher au monial du voisinage qui le rendait de grands services. Vous savez que les moniales rendent souvent de grands services aux moines. On le voit d'ailleurs dans les écrits de Saint Boniface. Il écrit une lettre à une abbesse, l'abbesse Edburg, des drôles de noms. Alors ce cher Boniface, il est abbé, dit « Souvent, vous avez consolé ma tristesse par l'envoi de vivres et de vêtements. Continuez ce que vous avez commencé, je vous prie, ma mère. » par la transcription pour moi des épîtres de Monseigneur l'apôtre Saint-Pierre en lettres d'or. De la sorte, vous honorerez les Saintes Écritures au regard des païens. » Alors on voit qu'il écrivait à ses moniales comme ça pour les remercier de tous les services qu'elle rendait aux moines. Et alors, le Winfried était assidu, lui, jeune moine, à tous les offices. Il ne manquait rien, rien, rien. Il ne manquait rien non plus pour le travail manuel. Il s'appliquait à travailler de ses mains. Il ne voulait pas avoir de serviteurs dans son monastère ou ce qu'on appelait des serfs. Il se voulait évidemment chaste et obéissant. Humble, on revient toujours à l'humilité. Et charitable. Il se distinguait aussi par son tempérance qui était rare chez ses compatriotes, disait-on, parce qu'à l'époque, même les moines avaient tendance de boire un peu de bonne bière ou de bon vin, et puis lui s'en abstenait totalement. Il préférait ne rien toucher. Alors rien d'étonnant qu'une figure comme ça, ça a suscité des sympathies énormes partout autour de lui. Il avait, pour ainsi dire, presque toutes les qualités. Ça aurait pu lui permettre de grandes ambitions. Mais il préférait fuir tous les honneurs. On lui offrait l'abbatia. Alors il a préféré fuir même sa patrie. Puis il préférait aller porter, comme il disait, aux païens, déshérités, la lumière de la foi. Alors, il est parti à l'automne 718. Je vous rappelle qu'il est né en 680, donc près de 40 ans. À l'âge de près de 40 ans, il part à l'automne de 718. Il est muni de lettres de son évêque, qui était un de ses amis. Il s'est dirigé vers Rome, donc partir d'Angleterre et se rendre à Rome, c'est tout un voyage à cette époque. Et l'accueil du pape a été très paternel. C'était le pape Grégoire II qui lui a remis, au printemps de l'année suivante, une lettre d'investiture pour prêcher la foi à ceux qu'on appelait les idolâtres de Germanie, c'est-à-dire les païens d'Allemagne, qui n'avaient pas la chance de connaître encore le christianisme, l'adoration d'un Dieu pur esprit, Dieu, le Dieu, au fond, qui nous a été révélé par l'entremise des Juifs, et ils adoraient plutôt des statues, et ils étaient pris dans la sorcellerie et dans d'innombrables superstitions. Et alors, il a obtenu cette investiture, et puis il lui a recommandé de suivre dans l'administration des sacrements les règles de la liturgie de Rome. C'est dans le texte. Puis, dans les cas difficiles, il lui a demandé de se référer constamment au siège du pape. Le pape a changé aussi le nom de Winfrid en celui de Boniface. C'était pas quelque chose de très nouveau que de faire ça, même pour un homme de 40 ans, parce que les Romains, eux, n'aimaient guère les espèces de noms qui avaient des consonances barbares. Pour eux autres, un nom anglais, c'était barbare. Barbare, ça veut dire étranger. Hein? N'oublions jamais, le mot barbare ne veut pas dire, comme on le dit aujourd'hui, barbare, mais barbare veut dire étranger. C'est un peu comme nous, quand quelqu'un a un nom trop compliqué, étranger, ça nous semble, on dit un peu barbare. Mais ça ne veut pas dire qu'on est méchant pour tout ça, hein? C'est qu'on a de la difficulté à comprendre ces noms-là. Et alors, étant donné la situation très confuse en Allemagne, le pape savait pas trop où envoyer Boniface de façon très précise. Alors Boniface visite la Bavière, la Thuringe, puis finalement il se décide de s'en aller se diriger vers la Frise, que les Francs, c'est-à-dire nos ancêtres, à nous d'origine française, venaient de reconquérir, et où Willibrord, son compagnon, un moine, était retourné. Et ce Willibrord, qui était âgé, a vu l'arrivée de ce jeune athlète de 40 ans, Boniface, avec beaucoup de joie. Il a voulu s'en faire son coadjuteur et successeur, mais plus soucieux de travaux puis que d'honneur, et Boniface, après 3 ans de labeur et d'expérience très encourageante, a décidé d'aller porter la foi à des régions encore plus déshéritées. Puis alors, il est allé à l'intérieur de l'Allemagne, et en route, il a fait une précieuse recrue, en la présence, en la personne, d'un adolescent qui s'appelait Grégoire. C'était le neveu d'une abbesse. Et ce jeune homme faisait à table la lecture devant Boniface, quand le saint lui a demandé de traduire le texte latin. Puis, devant son incapacité, il lui en a expliqué le sens en allemand. Alors l'enfant était charmé, puis a voulu dès lors s'attacher à la personne de Boniface, puis a plus voulu le quitter. Il est devenu quelqu'un de remarquable. Alors donc, c'est à la Hesse que Boniface a décidé de s'attaquer tout d'abord. Et là, ces territoires relevaient des Français, ou des Francs, si vous préférez. Ils avaient été touchés par... Les Francs n'étaient pas tout à fait des Français, c'était dans ces régions-là, n'est-ce pas? Il ne faut pas confondre. Il avait été touché par les évangélisateurs irlandais, comme Saint Quillion, dont on parlera un jour, mais demeurait profondément païen. C'est pas facile de convertir ces gens-là et de faire approfondir leur foi. Il y a des peuples sur la terre qui sont plus lents, d'autres sont très rapides. J'en ai vu au Cameroun, très très rapides. En une génération, ces gens-là deviennent des chrétiens admirables. Eux qui sont nés dans le paganisme, je les ai connus, je les ai vus au Cameroun, c'est absolument fantastique. Alors, fort des conseils puis des prières de ses amis d'Angleterre, Boniface a entrepris l'évangélisation méthodique de l'Allemagne, et puis pour cela, il a établi, comme je vous l'ai signalé au début, une première fondation monastique. C'est en établissant des monastères qu'il a réussi à convaincre les gens de la grandeur de la foi chrétienne. Il a voulu sans tarder porter à la connaissance du pape ses premiers résultats, ses difficultés. Alors le pape Grégoire II l'a invité à venir le voir à Rome, et le pape avait l'intention d'en faire de lui un évêque. Mais auparavant, il désirait l'interroger pour s'assurer si sa doctrine était saine. Et Boniface lui a remis une profession de foi écrite, et c'est alors seulement que Grégoire II lui a révélé son projet. Et Boniface, Saint Boniface, qui s'était soustrait au dessein tout à l'heure, vous avez vu, de son confrère bénédictin Saint Willibrode, il n'avait pas voulu devenir évêque, ben il n'a pas résisté là au pape. Il a été consacré évêque en 722, donc à 42 ans. Il était protégé par le prince, il était protégé par Rome, puis avec son titre d'évêque, ça lui a permis d'avoir un prestige énorme auprès des Germains, des Allemands. Alors, il a résolu de faire un coup d'éclat. Et les populations de la Hesse vénéraient, à l'égal d'un dieu, un chêne sacré. Ce chêne sacré était pour lui, ou pour eux, comme un dieu sur la montagne de Gutenberg, près de Fritzlar. Et Boniface a résolu d'abattre le chêne avec l'aide de ses compagnons, imaginez. Et à peine entamé, l'arbre s'est abattu, comme renversé par un vent étonnant. Les païens ont vu là une sorte de jugement de Dieu, et devant l'impuissance des idoles à défendre leur chêne, ils sont passés en grand nombre à la foi chrétienne. Et avec le bois du chêne, eh bien, Saint Boniface s'en est servi, parce que c'était un chêne énorme, pour édifier une chapelle à cet endroit, en l'honneur de Saint Pierre, premier pape. Au bout d'un an, Boniface a jugé l'évangélisation de la Hesse suffisamment avancée pour lui permettre de se rendre ailleurs, dans la Thuringe voisine. Puis là, il est resté là 7 ans. Et ça avait été fleuri un peu par la prédication chrétienne, mais bon, la vie religieuse était languissante, hein, puis le clergé était devenu ignorant et relâché. Quelle tristesse! Et Boniface l'a doté aussitôt de quoi? Ben, d'un autre monastère. Établi un monastère. Il savait qu'en établissant des monastères, il réussirait. Et ce monastère a été comme la forteresse du christianisme. Le monastère de Saint-Michel d'Ordroff, près de Gotha. Et pour le peuplier, comme pour recruter des ouvriers évangéliques, l'évêque, Saint Boniface a fait appel à ses amis d'Angleterre. Ils étaient nombreux, puis beaucoup, hommes et femmes, témoins de l'ardeur missionnaire qui animait la jeune chrétienté anglo-saxonne, ses moines, ont répondu à son appel. Alors, on peut dire que l'Angleterre catholique transmet sa foi à cette Allemagne plus ou moins païenne. Hein? Et la source de tout ça, c'est l'Irlande, catholique. Pour ceux-ci, en Allemagne, c'était un héritage des voisins des Anglais, les Celtes. Non pas que les contacts avaient dû être fréquents avec c'était les Irlandais, mais il y avait aussi des Bretons qui avaient été refoulés dans l'ouest de l'île d'Angleterre. Puis, les échanges ont été nombreux et de tout ordre. Alors, on voit là d'une nation, les Irlandais puis les Bretons établis en Angleterre, ça passe aux Anglais, les Anglais, ça passe à l'Allemagne. C'est ainsi que l'Église s'étend. Et les Anglo-Saxons ont visité en grand nombre les monastères d'Allemagne pour épuiser finalement science et vertu plus tard. Hein? Puis, ils ont contracté la soif de l'apostolat puis le désir aussi de s'expatrier ailleurs par amour du Christ. Puis, fidèles au tempérament de leur race, parce que si on peut parler de la race anglaise, hein, ou du peuple anglais, Mais ils agissaient avec beaucoup de méthode. Ils avaient le sens de la méthode. Puis ils se distinguent aussi par leur attachement au siège du pape, au siège de Rome, puis aux coutumes romaines, ces Anglais, qui malheureusement, au XVIe siècle, se sépareront de l'Église. Et Boniface est un bon exemple du fruit de tout ça. Serait-il question d'étudier toute la méthode missionnaire de Boniface, qui ressemble beaucoup à celle qu'on retrouve dans les lettres du pape Saint Grégoire, établir des monastères, mettre des îlots de prière, des îlots de civilisation, des îlots d'études, des îlots de gens qui établissent des terres, cultivent la terre, savent tailler le bois avec intelligence, construire, répandre des hospices, des écoles, etc. C'est avec les moines, alors qu'ils font leur évangélisation. En somme, deux points fondamentaux, rechercher l'appui des rois et des grands, mais sans jamais, jamais s'inféoder à eux, c'est-à-dire leur donner à eux le pouvoir sur lui-même. Et de plus, il faut appuyer son apostolat, et pour en maintenir les résultats, il fait toujours appel aux monastères. Ces monastères qui étaient pour la population, en somme, comme je vous l'ai dit, des foyers de civilisation, où on enseignait l'agriculture, les arts et surtout la foi chrétienne. Une femme qui était très importante dans la vie de Saint Boniface était l'abbesse de Bischofheim. Elle s'appelait Lioba. Elle avait quitté, elle aussi, l'Angleterre pour répondre à l'appel de Saint Boniface. Et on peut dire que rien n'éclaire mieux le tempérament de Boniface comme sa correspondance avec cette très grande abbesse, une femme d'une très grande qualité. Et on se rend compte que l'âme de Boniface, au premier abord, on pourrait croire qu'il était uniquement préoccupé de l'administration, puis de l'évangélisation, etc. Non, il n'était pas qu'un diamant brillant. Il était aussi d'une grande douceur, d'une grande sensibilité avec cette femme. Et peut-être que la nostalgie de sa patrie, de l'Angleterre, qu'il avait quittée pour toujours, puis aussi le poids des peines, des travaux de missionnaires qui l'accablaient, se laisse deviner dans ses lettres à cette abbesse, pour laquelle il avait un sentiment profond d'amitié, ou on peut dire d'amour spirituel, n'est-ce pas, un peu qu'il n'en existait entre saints et saintes comme François de Sales et sa grande amie, Jeanne de Chantal. Alors, il lui donne de judicieux conseils, puis on voit là, toujours dans ses lettres à cette abbesse, une sûreté de jugement d'un homme qui veut en prendre soin. Et il est toujours empressé à soumettre au pape les moindres difficultés qu'éprouve cette abbesse, pour laquelle il a une profonde estime. Il a recours constamment au pape, et d'ailleurs, on a de lui, alors qu'il était à Rome, en 722, à 42 ans, quand il était consacré évêque, on a un texte de Saint Boniface qui est très beau. « Moi, Boniface, évêque par la divine grâce, je promets à toi-même, bienheureux Pierre, prince des apôtres, à ton vicaire, au bienheureux Grégoire, le pape, et à ses successeurs, par le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Trinité Sainte et indivisible, et par ton corps sacré, ici présent, de garder toujours une fidélité parfaite à la foi catholique. Avec l'aide divine, je resterai dans l'unité de la foi dont dépend tout le salut des chrétiens. » On rejoint un peu l'appel du pape Jean-Paul II dans sa dernière encyclique. Il rêve de l'unité de tous les chrétiens. Et je rappelle cette phrase donc de Saint Boniface, écrite en 722. « Avec l'aide divine, je resterai dans l'unité de la foi dont dépend tout le salut des chrétiens. Je ne me prêterai sous aucune influence à rien qui porte atteinte à l'unité de l'Église universelle. En toutes circonstances, je prouverai ma fidélité,
la pureté de ma foi et mon total dévouement à toi-même, aux intérêts de l'Église qui a reçu de Dieu le pouvoir de lier et de délier à son vicaire, c'est-à-dire au pape, et à ses successeurs. Je vous rappelle, c'est un texte de Saint Boniface, dont on fête aujourd'hui le nom et la sainteté dans toute l'Église, et ça date du 30 novembre 722, au lendemain de sa consécration épiscopale, moment où il a été ordonné évêque. Et alors, la dernière réponse de Grégoire II à Boniface a précédé de peu la mort du pape. Grégoire II est mort le 11 février 731. Son successeur porta comme lui le nom de Grégoire. Donc Saint Boniface, apôtre de l'Allemagne, s'est empressé de lui écrire pour le féliciter, ce nouveau pape, et le mettre au courant de ses travaux. Et alors le nouveau Grégoire lui a répondu en le créant archevêque cette fois-ci, puis en les conférant le pallium en 732. Déjà, on distribuait des palliums. Qu'est-ce que c'est qu'un pallium? C'est un attribut que le pape accorde aux archevêques, parfois à certains évêques. Qu'est-ce que c'est? C'est ici de la laine des agneaux pascals, donc c'est une espèce de collier blanc qui porte des croix noires. Vous le remarquerez au col de certains archevêques. Notre archevêque à Montréal en porte un. C'est un symbole du rattachement de ces hommes au siège de Pierre et donc la fidélité à celui que le Christ a établi comme son vicaire, comme on dit. Alors, il fallait donner des évêques aux différentes provinces d'Allemagne qui étaient évangélisées par Boniface, et ce pouvoir d'archevêque lui permettait de le faire. Alors, Boniface a veillé sur l'ensemble de tous ces diocèses, pourvu à leur intérêt. Mais lui, il est demeuré sans siège fixe. Et puis, il a cherché à s'installer plutôt en Bavière, cette chère Bavière qui est vraiment une province que j'ai beaucoup aimée en Allemagne. Et la piété traditionnelle des Anglo-Saxons envers le Saint-Siège à cette époque, puis le tombeau des apôtres, l'ont incité à un nouveau pèlerinage, mais aussi le désir de discuter encore avec le pape. Puis Saint Boniface éprouvait le besoin impérieux de déverser dans le cœur du pape tout le poids de ses soucis et des peines qui l'accablaient. C'est assez curieux, hein? Alors il arrive à Rome avec de nombreux compagnons cette fois-là. Puis il a vu le successeur de Pierre qui assistait à un concile. Puis il est revenu au printemps de 739. Il avait près de 50 ans, ou même de 60 ans, consolé, encouragé, éclairé, puis chargé de reliques, dit-on, pour les jeunes églises. Comment ça se fait, chargé de reliques? Ça vient toujours, ça, de l'origine du christianisme. Les messes, les premières eucharisties étaient célébrées dans les catacombes sur les tombeaux, sur les reliques, donc, des saints. Et la coutume s'est gardée jusqu'à aujourd'hui, et dans chaque hôtel où les prêtres célèbrent la messe, dans les églises, les chapelles, mais il y a une plaque qui l'embrasse quand il approche de l'autel. Et dans cette plaque de pierre, on y a mis des reliques des saints, c'est-à-dire des morceaux de leur corps qui ressusciteront. C'est le signe, c'est le sens, hein, qui sont promus, qui sont voués. Et la promesse de la résurrection est une chose extrêmement importante au cœur des chrétiens. Nous sommes corps et âme, et nos corps ressusciteront pour toujours. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des anges. Hein. Nous sommes des êtres humains, corps et âme, et nous serons dans le ciel, corps et âme. Déjà, le Christ est là, corps et âme, et la Vierge aussi, selon la foi chrétienne, la foi catholique. Alors, c'est une foi difficile, mais c'est l'enseignement. Alors donc, il se rend en Bavière avec ses reliques, et il accomplit tous ses travaux, c'est absolument fantastique, et en une vingtaine d'années, il avait édifié sur les territoires, là, une solide chrétienté. Il lui fallait couronner son œuvre, et il fonde encore un autre monastère, c'est le monastère de Fulda, qui a laissé sa marque jusqu'à aujourd'hui. Et puis, il puise à Rome des renseignements. Il puise aussi au Mont Cassin, souvent, hein. Il puise au Mont Cassin. Il est bénédictin dans l'âme, hein. Il est d'origine bénédictine. Il écrit au pape un jour, « Les quatre peuples auxquels, par la grâce de Dieu, j'ai porté la parole évangélique sont à portée. Je puis encore leur être utile tant que je vivrai. » En somme, il se tient auprès de ses peuples et il veut toujours travailler en dépit de son âge. Entre-temps, il a entrepris une grande œuvre. Charles Martel, l'empereur, était mort en 741, puis ses deux fils, Pépin et Carloman, se sont partagés leur royaume. Et Carloman, lui, va devenir moine bénédictin au Mont Cassin. Nous qui sommes ici à Radio Ville-Marie, sur l'avenue du Mont Cassin, je le signale en passant, que le fils de Charles Martel, héritier partiel du trône, hein, s'est fait moine et a tout cédé, sa part de royaume, à son frère Pépin. C'est fantastique quand on pense à la foi de ces grands hommes de cette époque. On saurait énumérer toutes les mesures que Boniface a prises. Il a resserré les liens des prêtres avec leurs évêques et de ceux-ci avec les archevêques. Les prélats indignes ont été destitués. Il les a remplacés par de saints évêques, parmi lesquels il faut nommer saint Grodegang, évêque de Metz, qui a fait sa marque à l'époque et qui était admiré comme un grand saint. Il a travaillé si efficacement à la réforme du clergé, cet évêque, à l'institution aussi de chanoines réguliers, des vrais chanoines réguliers, c'est-à-dire des espèces de moines qui habitent les cathédrales et qui y prient jour et nuit, car toujours la foi de ces archevêques est confiante dans la prière liturgique, la prière des moines, la prière des chanoines. Les biens ecclésiastiques qui avaient été accaparés par les nobles ont été rendus à l'Église, mais en partie seulement. En 747, l'œuvre de Saint Boniface était virtuellement achevée, puis là, établi un concile général qui a tout sanctionné ça. Tous les évêques présents ont signé une profession de foi qui fut portée à Rome sur le tombeau de Saint-Pierre avant d'être remise au pape pour marquer l'union de l'Église de cette région, l'Église franque, et sa soumission au vicaire de Jésus-Christ. On était très attachés déjà avec une grande fidélité au pape. C'est étonnant, hein? Souvent on ignore ça, on s'imagine que c'est très récent cette fidélité au pape, mais pas du tout, elle date d'il y a très longtemps. Alors seuls les intérêts de Dieu et de son Église semblent capables d'intéresser Saint Boniface. Pourtant, les événements politiques de grande portée s'accomplissent à ce moment sous ses yeux. C'est là que Carloman, n'est-ce pas, se retire au Mont Cassin et devient moine, le fils de l'empereur, tandis que son frère Pépin reçoit la couronne du pape Zacharie. Et il se passe maintes et maintes et maintes choses. C'est absolument phénoménal tout ce qui se passe. Et au beau jour, eh bien, il reprend ses courses apostoliques. Le fanatisme des païens s'est réveillé. Une armée d'infidèles le massacre avec sa petite troupe. Et Saint Boniface meurt, massacré, martyr, le 5 juin 754, à l'âge de 74 ans. Tandis qu'il attendait, tout au nord du pays, des néophytes à qui il devait donner le sacrement de confirmation. Saint Boniface a conjuré ses compagnons de renoncer à la lutte, de ne pas se battre avec les armes, comme le Christ avait dit à Saint-Pierre au jardin de remettre son épée dans le fourreau. Saint-Pierre, premier pape, avait coupé l'oreille de Malchus. Mais Jésus ne voulait pas d'armes, la paix. Et le saint, donc, sans armes, n'utilisant que sa douceur, ça n'a pas réussi à désarmer les assaillants. Il s'est protégé la tête d'un livre, mais un coup d'épée a tranché le manuscrit et lui a fendu le crâne. Et avec lui périrent 52 de ses compagnons. les chrétiens de Frise, en Allemagne, ne tardèrent pas à les venger, malheureusement. Et c'est dommage. Mais ils sont allés recueillir les ossements des martyrs. Ceux de Saint-Boniface ont été portés à Mayence, puis, selon sa volonté, à Fulda, la fameuse abbaye de Fulda, où ils reposent toujours. Et ils sont l'objet de la vénération de toute l'Allemagne catholique de nos jours. C'est en effet auprès de son tombeau que se réunit régulièrement l'épiscopat allemand pour lui marquer sa fidélité et son attachement. Chacun doit apprendre avec soin la foi catholique et apostolique. Surtout les prédicateurs du peuple chrétien et les docteurs de l'Église de Dieu. Il fait appel aux prêtres et aux évêques. En effet, comment enseignerait-on ce qu'on n'a pas appris? Comment donc être vraiment pasteur si l'on ne sait pas faire paître du pain de vie le troupeau qui vous est confié? Quiconque ne sait pas ne doit pas rougir d'apprendre ce qu'il ignore. Quand il le saura, qu'il ne tarde pas à enseigner ce qu'il connaît. Comme c'est vrai et comme c'est beau. Un petit texte comme ça de Saint Boniface me le rend très, très sympathique.